il faut pas faire croire que tu vas que tu t'amuses avec des copains quoi, que ou des gens tu les aimes pas bien, mais enfin ils vont juste te dire oh ben mince alors ben, je suis vexée là, enfin tu vois c'est quand même tu te frottes à des gens qui sont non seulement enfin effectivement violents, mais en plus c'est des vrais salauds quoi, ils sont dénués de scrupules, tu sais pas ce qui peut arriver quand tu vas les provoquer. Enfin, tous les clowns qui vont crier bisou câlin, mais t'irais pas crier bisou câlin devant une bande de fachos, quoi. Déguisé en clown, tu t'attendrais à te prendre une branlée monumentale. Non, c'est vrai, c'est... Donc voilà, je pense que tout ça, c'est quand même des choses qu'on se doit dire, je trouve.
Oui, bah, c'est vrai que, enfin, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, enfin, je repensais à justement ces deux exemples, enfin, assez classiques, que tu retrouves en parlant avec des militants libertaires, qui vont toujours te citer en grand exemple McNo ou Dorothy, parce qu'ils ont cette image justement du militant vaillant et courageux et qui plus est monter une armée était bah justement toute cette image de la martyrologie etc quoi. Et quelle est la proportion de ces militants avec qui je discute de ces gens-là qui vont chercher quelles étaient leurs idées, quelle était leur version d'un projet libertaire, vont davantage aller s'intéresser à ce qu'ils ont fait en tant que qu'activiste quoi, à ce qu'ils ont fait en tant que militant de terrain, comme si il était possible qu'il y ait deux tranches de militants, ceux qui réfléchissent et ceux qui agissent, et que le fait d'agir, peu importe ce que tu fais, te dédouaner d'avoir pensé de grosses conneries ou de grosses critiques, ou même d'avoir te dédouaner de quelconque critique par rapport à positive ou négative par rapport à ce que tu pouvais penser.
Oui, je suis d'accord. Et puis il y a aussi une chose, à mon avis, par rapport au fantasme sur des gens comme McNo ou Durruti, c'est que t'as aussi le fantasme du super militant avec des super résultats. C'est-à-dire que quelque part, être militant te renvoie à ta condition misérable de pauvre individu qui peut peu, si tu veux. Donc, quand je te parlais tout à l'heure du fait que en distribuant des tracts, on a des petits résultats, en effet, alors que quand tu vas voir des élus ou quand tu vas voir des journalistes, alors là, tu vas toucher plein de monde, tu vas aller voir quelqu'un de puissant qui va tu pourras te goberger que c'est toi qui a déclenché ce super truc. C'est quelque part c'est difficile de se ramener à sa condition d'individu qui ne, c'est déjà pas si mal quand tu arrives à ton niveau à ramener quelques personnes, mais quand tu es Durruti ou McNo, là c'est quand même autre chose.
Oui,
toi tu as levé toute une armée, tu as réussi à toi tout seul à faire établir l'anarchisme, quoi. Et alors que non, il faut être plus humble que ça, je trouve.
Et justement, ça va même plus loin, parce que à partir du moment où tu vois justement où la critique devient impossible dans les réflexions de ce genre de personnes, parce que c'était des militants de terrain.
Mais tu peux être un militant de terrain modeste.
Bah oui, justement. Et ça entretient vraiment une sacrée culture du chef, quoi, sous prétexte que tu sois beaucoup activé, en plus en période révolutionnaire, on sait jamais comment est-ce que des militants aujourd'hui se comporteraient dans la même période, quoi. Fait que oui, t'as une figure idolâtre, une figure du chef qui s'entretient, et vraiment qui fagot aussi toute réflexion, quoi.
Bah d'ailleurs, juste en passant, je suis désolée puisque Laurent tu en fais partie, mais je me sens très mal à l'aise par rapport à l'idée du métron des anards, tu vois, parce que ça veut dire que, comme pour paraphraser le gros dégueulasse de Reiser dans le grand cassoulet du militantisme, il y en a qui font les saucisses et d'autres qui font les haricots, tu vois. Il y en a qui sont des militants qui méritent de figurer au panthéon du militantisme, et puis d'autres, tu sais, c'est les petites mains, les petits, c'est la piétaille, quoi, tu vois. Non, je sais pas, enfin, comment tu le sens, toi, par rapport à ça, Nicolas, sur l'idée de y a des militants qui sont quand même meilleurs que d'autres, qui ont des titres de gloire, et puis d'autres, ma foi, ben tu vois, c'est un peu les, ouais, voilà, la piétaille, non?
Bah ouais. Mais je pense aussi que faut se rappeler aussi que les gens disent pas forcément la vérité, et même quand ils disent qu'ils font plein de choses, c'est pas non plus forcément le cas. C'est aussi là encore un moyen de se montrer supérieur aux autres, ou de te faire taire en disant quand on aura fait autant, tu pourras voilà, enfin d'essayer de justifier un autoritarisme sans en avoir, enfin en essayant de pas en avoir l'air. De même que les médias qui se disent objectifs le sont pas forcément, et que les gens qui te disent qu'ils sont tes alliés le sont pas forcément non plus.
C'est vrai.
Tout ça amène à la nécessité de réfléchir et de mener des réflexions. C'est vrai que le courage, le dynamisme, le volontarisme peuvent être des qualités humaines, mais qui doivent être couplées, non séparées, de la capacité de réfléchir, de la capacité d'être critique, de la capacité d'être autocritique, de faire des retours sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on a dit, voir si on s'est trompé. Mais tout cela n'est pas facile. Tout cela est assez compliqué en réalité. Mais enfin bon, c'est pas une raison pour y renoncer.
Je trouve pas que ce soit si compliqué quand tu lis ces textes-là. Non. Tu te dis, ça casse pas trois pattes à un canard, c'est ce qu'elle a dit.
Non,
par exemple,
je dis que c'est.
Je trouve que c'est.
Je dis que c'est compliqué,
toi. En tout cas.
Je dis que c'est compliqué parce que évidemment, ces gens-là l'ont écrit. Eux ont eu cette capacité à revenir sur un événement, à produire des analyses, des commentaires, etc. Mais en réalité, je pense que tout ce qu'on a pu dire, ce que vous avez pu dire ce matin, rejoint d'une certaine façon l'excellent débat qu'on a eu hier à la librairie Publico sur l'exploitation des salariés dans le secteur associatif. Je veux dire par là que quand on évoquait le secteur associatif, bon, tout ce qui a été évoqué, c'était tout ce dilemme entre le but affiché d'une association, ses buts humains, humanitaires, médicaux ou autres, qui sont tout à fait louables, qui vont se confronter en interne avec des pratiques salariales dégueulasses. Et donc l'impossibilité pour des salariés de se priver volontairement ou pas de dénoncer ce qui va se passer en interne pour pas ternir l'image d'une association qui par ailleurs peut produire des effets bénéfiques sur une population. Et je pense que dans le rapport qu'ont les militants avec leur environnement immédiat, c'est-à-dire là où ils luttent, où ils vivent, où ils militent, etc. et tout, eh bien, on va retrouver exactement la même chose, c'est-à-dire pour préserver une histoire qui doit être irréprochable, pour continuer à porter la mémoire d'une lutte qui doit rester quelque chose d'exemplaire. Eh bien, on triche avec la réalité, on triche avec la vérité, et c'est en ce sens-là que je disais qu'il y a comme une incapacité à mener parfois les réflexions nécessaires, faire un retour sur événements, parce que on peut être effectivement prisonnier, ou du moins des personnes peuvent être prisonnières de cela, de cette incapacité de revenir sur une histoire pour en tirer des enseignements. Parce que pour moi, à la finale, c'est ça qui est important, c'est tirer des enseignements pour progresser, pour avancer, pour ne pas refaire les mêmes erreurs qu'on a pu faire dans le passé.
Je voudrais juste donc reciter les textes sur lesquels on s'est appuyé. Donc, ça a été relayé sur d'autres supports militants, le premier en particulier sur IATA Toulouse et tout. En tout cas, si vous, sur un moteur de recherche, vous faites, il y en a un qui, le premier, hein, qui est sorti là-dessus, de critique des soulèvements de la Terre, c'est soulèvements de la Terre versus État, même combat. Et l'autre, sur Indy Médianante, je ne sais pas s'il a été relayé ailleurs. C'est donc réponse au texte, c'est important, réponse au texte, puisque c'est effectivement une réponse, puisque bien entendu, les manipulateurs de Sainte-Soline et de Notre-Dame-des-Landes ont réagi à la critique. Hein. Donc, réponse au texte à celles et ceux qui ont marché à Sainte-Soline, donc sur Indy Médianante. Voilà. Et donc, je vous engage aussi à lire les commentaires parce que c'est la particularité d'Indy Médianante et c'est assez intéressant de lire les commentaires. Voilà.
Bon, rendez-vous la semaine prochaine, 11h pour un nouvel épisode de lundi matin. On va écouter Patti Smith tout de suite. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver l'émission sur le site anarchiste.info, qui est le site du groupe libertaire d'Ivry. Donc tout de suite Patti Smith, ensuite de la musique, et à 14h30, reprise des émissions en direct sur Radio Libertaire avec l'émission Onde de Choc. Au revoir, à la semaine prochaine. Ah, pardon, un complément ?
Non, je veux dire, c'est pas forcément en direct.
Ah oui, voilà, oui. À la semaine prochaine, au revoir.
Black barn, the baby in my arms, in her swaddling clothes, and I nurse her. That the sky will split, and the planets will shift. Bows of jade will drop, and existence will stop. Electric whirlwind, the sea rushes up my knees like flame, and I feel like just some misplaced Joan of Arc in the cause as you looking up at me. Oh baby, I remember when you were born. It was dawn and the storm settled in my belly, in the road, in the grass, in the spit out the gas, in the lit a match, in the void wind flash, in the sky lit, and the planets hit. Bows of jade dropped, and existence stopped. Stop, stop, stop. Little sister, the sky is falling. Adamant, adamant. Little sister, the fates are calling on you. Breakthrough with you, so with one hand I rocked you, and with one heart I reached for you. I knew your youth was for the taking, fire on the mental plane, so I ran through the fields as the bats with their baby bane faces burst from the barn in flames in the violet, violent sky. And I fell on my knees and pressed you against me. Your skull was like a network of spittle, like glass balls moving in like cold streams of logic. And I prayed as that lightning attacked that some will make it go crack. 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 The palm trees.
Radio Libertaire 89.4.
La radio de la Fédération anarchiste, la voix sans Dieu ni maître.
Pour nous soutenir financièrement, on a toujours besoin de vous pour continuer d'émettre. Et renouveler le matos, par exemple.
Vous pouvez télécharger un bon de souscription pour soutenir votre radio sur le site de la Fédération anarchiste.
Et qui est bien sûr modulable selon vos moyens.
Ta radio, tu l'aimes ?
Alors tu la soutiens.
Pour télécharger votre bon de souscription à Radio Libertaire, rendez-vous sur le site www.radio-libertaire.net.
À travers l'actualité.
Carapatage, une émission contre toutes les cages. Carapatage, c'est une émission contre les prisons, la répression et le contrôle. À travers l'actualité de l'enfermement, mais aussi son histoire. En racontant les luttes à l'intérieur et à l'extérieur. En échangeant ce qu'on a vu, lu et entendu. Carapatage, c'est tous les premiers et troisièmes mercredis du mois, de 20h30 à 22h.
Sur Radio Libertaire 89.4 FM.
Carapatage contre toutes les cages.
Bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages, comme tous les premiers et troisièmes mercredis du mois sur Radio Libertaire 89.4 FM. Alors, moi je me présente, c'est Gomme. Je vais animer un peu l'émission ce soir. Et je vais présenter les autres. Alors, ce soir, nous avons Pitou qui est là.
Bonsoir.
Billy.
Salut, salut.
Et notre invité du soir, Alfiche.
Bonsoir.
Et à la technique, Émile, qui est de passage dans le coin pour nous sauver la mise.
11h15 hier, un détenu filme de sa cellule la cour de la prison de Réau. On entend les pales d'un hélicoptère qui vient de se poser dans l'enceinte de l'établissement. Le pilote est en fait pris en otage par trois hommes armés de fusils d'assaut. Ils viennent chercher Redouane Faïd. Le braqueur multirécidiviste de 46 ans est alors au parloir avec son frère. Pour pénétrer dans la prison, deux des complices, cagoulés, lancent des fumigènes sur les surveillants et s'attaquent aux portes avec une disqueuse.
Et non, désolé pour du faux espoir pour les éventuels fans, mais notre émission de ce soir ne va pas porter sur l'évasion de Redouane Faïd en juillet 2018. On va discuter d'une tentative d'évasion qui s'est passée la même année et qui a fait beaucoup moins de bruit dans les médias. On s'est dit que c'était important, en parlant d'évasion, de ne pas se cantonner aux grosses histoires spectaculaires, mais plutôt faire la part belle aux petites carapates de l'ombre qui n'impliquent ni gros sous, ni armes de guerre, ni explosifs, ni hélicoptères. Juste une bonne dose d'audace et d'astuce, parfois peut-être aussi une pointe de désespoir, mais toujours une grosse, grosse soif de liberté.
Ouais, et l'idée de cette émission, c'était aussi de se rappeler que les murs des prisons ne sont pas infranchissables. Régulièrement, des prisonnières débusquent les failles, parfois insoupçonnées du système carcéral, malgré la mise en place de nouveaux dispositifs anti-évasion au fil du temps. Par exemple, aujourd'hui, la plupart des prisons sont équipées de caillebotis, ces épaisses grilles en fer qui doublent les barreaux des fenêtres. Sauf que, dans certains cas, comme à la prison de Fresnes, il est toujours possible de creuser le mur à côté de la fenêtre. On y reviendra un peu plus tard dans l'émission. Aussi, les prisons sont de plus en plus équipées de technologies de surveillance. En plus des caméras, l'administration pénitentiaire installe depuis plusieurs années des portiques pour détecter des objets dissimulés dans des poches au niveau des accès au parloir ou au cours de promenade, mais aussi des brouilleurs d'ondes de téléphone ou des détecteurs de mouvement dans les chemins de ronde ou sur les façades. Sauf que, parfois, ces dispositifs ne fonctionnent plus. Par exemple, en 2015, un rapport révélait que près de 70 caméras, au moins, étaient hors service à Fleury-Mérogis. Ou alors, ces dispositifs deviennent vite obsolètes, comme les brouilleurs d'ondes, désormais inefficaces du fait de l'évolution de la téléphonie. Et puis, concernant les détecteurs de mouvement, parfois la multiplication des fausses alertes finit par limiter l'attention des matons le jour où une évadée fait sonner l'alarme. Voilà, tout ceci pour dire grossièrement que les murs des prisons ont toujours été franchis et continuent de l'être, évidemment pas à n'importe quel prix, mais très souvent des évadés nous rappellent que les tôles ne sont pas tout à fait ces forteresses complètement étanches telles que l'État souhaite nous les présenter.
Aussi, on avait envie d'avoir en tête que chaque évasion, elle est unique et qu'il y a plein de facteurs qui entrent en jeu et qu'on va pas pouvoir parler de toutes les évasions et on n'a pas l'intention de le faire. C'est pour ça qu'on avait envie de se concentrer sur une tentative d'évasion. Parce qu'en vrai, une évasion ou une tentative d'évasion, elle dépend de plein de choses. Ça dépend si elle est préparée à l'avance ou pas, si elle a lieu à la faveur d'une révolte ou d'une mutinerie, ou si elle est le fruit de plusieurs semaines de préparation un peu nombreuses. Ça dépend du fait aussi de qu'elle soit pensée seule ou collectivement. Aussi, il y a des personnes qui ont la possibilité d'avoir des liens avec des avocats, et du coup, la communication avec un ou une avocate est théoriquement moins surveillée, et c'est une personne qui peut faire sortir des messages si les parloirs avec les proches sont trop surveillés, par exemple. Il y a aussi la question de la possibilité de faire entrer du matériel grâce au parloir officiel ou au parloir sauvage, dont on entend quelquefois parler dans les médias. Il y a aussi le fait de passer par la cantine avec l'exemple de, par exemple, de prisonniers ou prisonnières qui utilisent certains objets qu'ils peuvent cantiner pour se fabriquer des choses insolites. À l'image de ces deux prisonniers dont on peut lire le témoignage dans une des brochures qui sera mise sur le blog, qui se sont fabriqués une corde de 15 mètres de long et de 3-4 cm de diamètre en tressant les semelles d'espadrilles qu'ils avaient cantinées, qui sont faites en corde de chanvre par exemple, et en demandant à tout un tas d'autres détenus d'en faire autant pour qu'ils puissent avoir rapidement pour eux, une cinquantaine d'espadrilles à tresser. Il y a aussi des enjeux, grands enjeux autour des complices. Et du coup, par exemple, des prisonniers et prisonnières qui ont la capacité de faire pression sur certains matons ou matones pour qu'ils les aident, ou d'être aidés par des auxis. Ce qui n'est pas forcément donné à tout le monde. Il y a aussi le fait de pouvoir compter sur des personnes à l'extérieur, alors des personnes qui vont balancer des trucs par-dessus les murs et qui vont atterrir dans la cour de promenade, d'autres personnes qui vont possiblement attendre en voiture de l'autre côté du mur de promenade et qui vont pouvoir aider les personnes à s'échapper. Il y a aussi les évasions, comme celles dont je parlais tout à l'heure, qui se passent lors de transferts vers l'hôpital. notamment quand particulièrement quand les détenus sont envoyés vers les urgences. Du coup, c'est des hôpitaux publics, c'est des endroits où on est moins surveillé, qui sont pas prévus pour garder des personnes, et du coup où parfois les détenus se retrouvent les prisonniers prisonnières se retrouvent gardés par un maton ou une matone ou un gendarme, et du coup sont beaucoup plus ont plus de possibilités de s'enfuir. Mais il y a aussi des évasions pendant des transferts d'une prison à l'autre. Et ça, c'est le genre d'évasion qui demande plus de moyens, parce que ça demande qu'on ait des personnes dehors prêtes à tendre une embuscade à un camion et à possiblement prendre les armes. Et tout ça, ça demande évidemment beaucoup d'argent et beaucoup de... surtout beaucoup d'argent. Beaucoup de personnes disponibles. Enfin, voilà. Il y a aussi... la différence entre des évasions récits et des tentatives d'évasion qui aussi des fois dépendent des plans qu'on a pour la suite et de comment on a pensé la cavale ou pas. Est-ce qu'on a eu la possibilité de penser sa cavale ou pas? Voilà, tout un tas de facteurs qui entrent en jeu quand on pense une évasion.
Et la question de la cavale, c'est important d'en parler parce que une évasion, malheureusement, ne s'arrête pas au franchissement des murs. Après, il faut savoir échapper à tous les flics envoyés à ses trousses une fois que l'alerte a été donnée. Et souvent, des évadés se font rattraper, malheureusement. Et justement, dans cette émission, on voulait mettre l'accent sur les évasions, entre guillemets, ratées. Toutes les tentatives dont on parle moins, parce qu'elles ne sont pas abouties. Pourtant, ces tentatives sont toujours des démonstrations de la perméabilité des murs des prisons à des degrés différents. Et certaines d'entre elles aboutissent tout de même à des moments de liberté. Certes, éphémère, mais pas négligeable. Parfois, c'est plusieurs jours au grand air avant que les flics débarquent. D'autres fois, c'est seulement quelques heures dans le chemin de ronde avant de se faire cramer par le mirador. Mais ça reste des moments particuliers, plus ou moins en dehors de la contrainte des matons, et qui constituent, en tout cas à mon sens, une manière forte de défier l'autorité carcérale. Alors évidemment, ces tentatives d'évasion ont des conséquences plus ou moins lourdes sur la suite de la détention, et on avait aussi envie d'aborder cet aspect répressif. Voilà, tout ça est une espèce de petite mise en bouche de tout ce dont on voulait parler ce soir. Et justement, pour en parler, on a un invité avec nous, Alfish. Alors voilà, tu es venu nous rejoindre ce soir pour un peu raconter comment toi tu as tenté de t'évader de prison. Peut-être tu peux nous rappeler un petit peu le contexte. Et puis après, on écoutera une petite chanson.
D'accord. Bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Alfish. Du coup, moi, j'étais en prison parce que je tentais d'ouvrir un squat. Je pris un an pour les tentatives d'ouverture d'un squat en disant cambriolage. Parce que dans leur article de tribunal, là, il n'y a pas un pauvre qui cherchait pour chercher un toit, c'est juste un voleur. J'étais en prison de Frant, fin 2018, janvier 2019, on a tenté d'évader. Parce que je sais que ma peine, ça va finir dans une semaine. Je le sais aussi. Je le fais pour ma liberté. Je ne vais même pas retourner dans mon pays d'origine. Du coup, on a parlé, moi et mon co-détenu, on a profité d'un grève des matons qui est passé janvier 2019. Il y a un maton qui était blessé par un détenu à Calais, et du coup, toutes les matons des prisons de France, ils ont en grève. Pendant une semaine, ils nous ramènent pas du déjeuner et tout ça. Et du coup, nous, on a commencé à préparer notre tentative d'évasion. Du coup, comme je disais tout à l'heure, il y avait un grève de matons qui est passé à Calais et dans toutes les prisons en France. Ils ont fait une manifestation devant la prison de Frant. Du coup, ils ont en grève contre le détenu. Normalement, ils devaient ramener le repas trois fois par jour, le dîner, le midi, le soir. Il fait des sondages dans les cellules. Ils ont arrêté de faire tout ça. Et du coup, nous avons profité de ce moment, on a préparé notre évasion. Avant de sortir, on a discuté plusieurs fois en disant, je dis à mon co-détenu, moi, si je vais faire ça, j'ai une raison à moi, j'expliquais mon raison. Et lui, il m'a dit, ouais, il a vu le prison break. Pour lui, même, il est sorti, il veut y aller nulle part. Il va juste se présenter à la commissariat en disant, il est sorti chercher du pain. Il n'est pas évadé. Du coup, on s'est mis d'accord. On a préparé, on a fait des cordes. Moi, je sais faire des cordes. C'est pas juste attacher des draps. Non, on déchire les draps à petits morceaux. Je fais un bon corde. Nous avons décidé de descendre demain. Du coup,
juste sur la corde. Oui. En fait, tu as déchiré des bouts de draps. Oui, tu les as tressés, c'est ça?
Ouais, je l'ai tressé en trois fois en fait. Ça va être solide pour pas que on peut tomber de deuxième étage et tout ça. Donc, c'est vraiment solide quoi. Du coup, le jour de notre décision, on dit voilà, demain on va sortir. Il m'a dit on va descendre au promenade. Moi j'ai dit non, je vais pas descendre. Je suis resté en haut. Lui il est descendu au promenade. En parlant à tout le détenu au promenade, ce soir on va sortir. Et du coup, nous on est sorti à deux de cellule. Moi je me suis descendu avant. Après mon co-détenu m'avait rejoint. Nous avons descendu dans le cours de promenade et du coup. Là, le détenu, il commençait à filmer et met sur les Snapchat. Du coup, on est...
D'autres détenus au-dessus de vous, quoi.
Ouais, au-dessus de nous. Ils ont vu, ils savent que, ouais, le mec, ils sont assirés, ils ont dit, ils vont évader, et ils l'ont fait. Ils commencent à crier, ils tapent sur le fenêtre et tout ça. Du coup, nous avons monté sur le... Nous sommes descendus sur la cour de l'escolaire. Donc, il y avait le myrte, le premier myrte, il est en face de nous. Nous sommes partis là-bas, je l'ai pris ici, il est monté sur moi. Et il y avait le...
Sur tes épaules, tu veux dire?
Ouais.
Il est monté, Aïssa, pardon.
Aïssa, ouais, sur mon épaule. Et du coup, il est monté sur mon épaule en accrochant sur les barblets de premier myrte. Et là, il vit la distance de premier myrte et deuxième myrte, c'est loin. Du coup, il y avait un mirador en face de nous où on voulait sortir. Et là, il y a un mec qui est crié, ouais, le mirador, regarde, je suis fou, comme ça veut dire, le mirador vous voit. Et là, mon co-détenu, il a eu peur, il est retourné. Du coup, il est monté sur les toits des scolaires et il est retourné dans le cellule.
En re-escaladant avec la corde que vous aviez,
oui,
que vous aviez
faite. Oui, la corde qu'on a laissée parce qu'il est resté en escaladé. Moi, je suis allé jusqu'auprès de lui. Je lui ai dit, donne-moi les cordes. Il m'avait jeté les cordes. Il dit, ouais, mec, c'est mort. Moi, je ne vais pas partir. Moi, j'ai dit non. Je me suis descendu pour ne pas retourner. En tout cas, je ne vais pas retourner. Je continue. Sur les toits, je suis allé jusqu'à le bâtiment de Mitard, de Frente, vers le Nord. C'est le site, Détroit, site.
Okay. Détroit.
Ouais, le Détroit site. Nous, on était au Détroit Nord. Okay. Et là, je suis sur le toit de l'escolaire, là. Je vois deux gens. À l'extérieur, en disant, il m'a appelé avec mon nom de famille, viens, on te ramène chez toi. Et cette gens-là, c'est la police, parce que nous avons pas de téléphone à l'intérieur des cellules. Je me suis retourné avec le corps que j'avais. Je me suis descendu entre le toit de les bâtiments de Métard et la cour des sports, promenade. Et là, je me suis trouvé devant un grillage vert, long, avec des barblets en haut. Les cordes qui m'avaient resté, je me suis escaladé avec, j'ai pris le grillage. Les barblets là, qui font tourner en haut, je l'ai pris avec ma main. m'avait beaucoup blessé et tout ça, je me suis blessé partout. Je suis descendu dans le terrain des sports. Donc, il y a le mur devant moi et il y avait une grande lumière comme ça en face. Du coup, il y a une camionnette qui est garée en face. Donc, moi, je me dis, voilà, de toute façon, je le vois. Moi, que j'étais en haut, je vois le matin, il me cherchait au Détroit Nord. Moi, j'étais au Détroit Sud, je suis en haut sur les toits, ça fait un peu noir, ça pleuvait. Il ne me voit pas, mais moi, je le vois. Mais il ne sait pas où je suis. Parce qu'ils ne sont pas au courant, c'est la police, grâce aux détenus qui sont dans le bâtiment Détroit Nord. Ils ont filmé et mis sur les Snapchat. Et du coup, la police de 94 a regardé et appelé le prison en freine, en disant il y a une évasion en courte. Et le prison, il dit non, nous avons fait le tour de ces lits, il n'y a rien. Et du coup, je suis descendu et il n'y a pas d'autre solution, je ne peux pas retourner. De toute façon, ils ont sonné l'alarme, ça criait, mais le détenu, toutes les détenus, me voient, il sait où je suis, mais... Et il part pas, il criait. Il y en a qui me disent, va par là. Je me suis un peu débordé dans ma tête. J'ai dit, bon, la seule solution, il faut, j'arrive de rentrer dans cette camionnette. Le matin, quand elle sort, je sors avec.
Quand tu dis rentrer dans la camionnette, c'était te mettre en dessous, non?
Ouais, en dessous, en fait. En dessous, comme on le fait à Calais, quoi, pour aller en Angleterre, il s'appelle ça jingle, quoi. Donc, je dis, bah, voilà, c'est la meilleure solution de le faire. Et je suis allé rester contre le mur. Et j'écoute le mirador parler avec des gens. Et j'ai dit, bon, je restais pendant longtemps. Je dis, je ne peux pas rester jusqu'à là. Et il vient me trouver ici, il faut que j'aille. Et une fois que je suis sorti dans le lumière, là, il m'a dit, bouge pas, il m'avait parlé en Timal. Oh, Timal, comme j'avais des rastas et tout ça. Je dis, non, c'est pas Timal, moi. Et il m'a dit, Kouni en maman, je sais pas, c'est quoi, ça signifie quoi, je sais pas. Je lui répétais pareil. Il m'a dit, enlève ta main en haut. Je me suis fait comme ça, j'ai enlevé ma main. Il m'a dit...
T'as levé tes mains en l'air, quoi.
Ouais. Il m'a dit tourner. Je dis non, je peux pas. Là, avant de dire ça, il m'avait répété. Au début, je vais pas enlever ma main en haut. Il m'a dit je vais tirer trois fois. Il dit ok. Il m'a dit tourner. Je dis je peux pas tourner moi. Si tu veux tirer, fais-les en face. Là, je plie de force. Je fais 4 heures du temps dehors. Et j'arrive pas à sortir, donc si vous voulez tirez. Il m'a dit mettez votre main sur la tête, je fais pareil comme il voulait. Et là, il a téléphoné en disant le mec, il est à genoux. Et là, ils ont venu ouvrir les grandes portes, il y a la police et tout ça. Je sais pas, je les vois pas, ils ont mis une lumière sur mon visage. Et du coup, je vois pas, il m'a dit, bouge pas, si tu bouges, on va tirer. Et du coup, il avance avec un coup de soufflet, il y a quelqu'un qui soufflait. Et là, ils ont vont s'apprendre, je sais pas, 30-40 minutes pour m'arrêter.
Ah, un coup de sifflet, c'est ça que tu
dis? Ouais, il fait comme ça, pas un soufflet, mais il souffle avec sa bouche, quoi.
Ouais, okay.
Ah, oui. Et du coup, il fait comme ça, je vois leur ombre là, arriver vers moi et tout ça, ils ont venu tabasser, me mis à poil. J'étais au mitard.
Peut-être avant qu'on...
Ouais.
Avant de parler de ce qui s'est passé après le moment où ils t'ont chopé.
Oui.
Est-ce que ça tirait de... Parce que du coup, tu nous as fait un peu un petit récit là depuis... Comment t'es arrivé de la cellule jusqu'au mur d'enceinte, quoi.
Ouais.
Et comme tu disais, ça t'a pris 4 heures de temps, quoi.
Oui.
Du coup, ça veut dire que pendant ces 4 heures, déjà, les matons de la tôle, ils t'ont pas grillé, quoi.
Mais non,
pas du tout. Il y a seulement les détenus qui t'ont grillé avec Snapchat, enfin, qui t'ont vu, qui via Snapchat, du coup... sans involontairement ton griller sur Internet, quoi. Mais...
Ouais, en fait, eux, ils le font pour le plaisir, pour que leurs potes ils voient ça. Du coup, je sais pas comment la police a pu suivre ça, mais tout ce que je sais, au moins que je suis en haut dans le bâtiment de Mittard, là, sur le toit des bâtiments Mittard, je vois des policiers dehors dans les cités en m'appelant, viens, on te ramène chez toi. Je dis, mais n'importe quoi, je ne connais pas, je n'ai pas de téléphone dans mon cellule. Comment je peux appeler des gens qui viennent m'attendre dehors? Et là, je me suis retourné. Donc, entre le bâtiment de Mittard et l'autre, là, il n'y a pas trop d'espace, en fait. Si tu as le courage, tu peux sauter aussi, tomber sur le dernier mur. Mais juste, je vois des gens qui m'appellent et je dis n'importe quoi. Peut-être il y a une autre sortie qu'il faut y aller essayer. Et du coup, je me suis retourné, tombé sur le mirador. Ouais. Sans savoir, je sais pas le plan et tout ça.
Et la lumière dont tu parlais tout à l'heure, c'était que le mirador, il avait comme une grosse lumière qui dirigeait.
Non, et je sais pas comment expliquer cette lumière, en fait.
Ouais.
Quand tu sors de le terrain des sports de détenu là, du coup il y a une espèce de jardin qui est là. Dans le journée tu le vois comme un jardin, et moi j'étais là-bas et je vois ici là ça fait noir. Et là, ça fait noir et
au milieu, il y a de la
lumière.
Ouais, un faisceau lumineux, quoi.
Ouais, ben, je sais pas comment. Au moins que je suis arrivé ici, déjà fatigué, je n'ai rien sur moi, que le cord,
ouais.
Même mon t-shirt que je l'ai, j'ai enlevé, le cord est terminé, parce que j'ai fait le toit scolaire. Il y a un grillage un peu long, ça fait 2 mètres ou 2 mètres et 50. Je fais ça aussi. Monter sur le. Donc, tu as besoin de trop de cordes, en fait. Les 3 cordes que je laisse, c'est terminé. Donc, je me trouve sans cordes devant un mur de 6 mètres.
Ouais.
Donc, la seule solution, c'est de rentrer à l'intérieur de cette camionnette que je vois de loin. Et je me suis approché. De les camionnettes aussi. En disant, je peux rentrer à l'intérieur de ça, et le matin, quand elle va sortir, je sors avec. Et là, une fois que moi, dans ma tête, j'avais compté les miradors, il y en a un là, un là, un là. Et par contre, il y avait un quatrième que je n'ai pas vu.
Ah ouais.
Avec les bâtiments, et là, je sortis. Sur le mirador. Lui-même, il est au courant. Peut-être il était contacté par téléphone. J'en sais pas trop. Tout ce que je sais, il m'avait parlé mal. Je n'ai pas répondu. Il m'a dit, je vais tirer. Il veut que je tourne comme ça. Et je me mets au sol. Et moi, j'ai dit, non, si vous voulez tirer, faites-le en face.
Ouais, parce que tu étais face à lui et il demandait de te mettre de dos.
Ouais, de dos. Et moi, je dis non, si vous voulez, faites-le comme ça, quoi. Tirez, je vous regarde, mais non. Et après, il a appelé.
Le renfort.
Ouais, le renfort, ils ont venu. Ils m'ont ramené au Mittard. Du coup, ils m'ont posé des questions, j'ai répondu à leurs questions. Je fais 22 jours. Au Mittard, c'est le peine maximum. Et mon code de tenue aussi, il était ramené avec moi au Mittard. Il a fait 21 jours. Et moi, je fais 22 jours. Et après, on est parti à l'isolement. On est parti à l'isolement.
Et désolé, je...
Oui, oui.
Je reviens un peu en arrière.
Ouais.
Je voulais savoir si tu pouvais un peu nous raconter aussi avant...
Ouais.
Que vous décidez avant de descendre avec la corde, la façade, un peu toute la phase de préparation quand vous avez fait la corde, une histoire avec un miroir, enfin tu vois.
Là je peux, mais il y a certaines choses je pouvais pas le dire. Du coup, dans les cellules, on a un étang là, il dit l'étang.
Ouais.
Nous avons un miroir qui est cassé. Lui, il le met comme ça et il regarde.
Parce que l'étang est cassé aussi, c'est ça?
Ouais, elle est cassée.
Il n'y a plus de vitres.
Il n'y a plus de vitres. Nous, on est installé dans cette cellule, il n'y a plus de vitres. Mmh. Et comme le cellule est le fond, après le cellule, il y avait les douches publiques de détenus. Et il y avait un seul escalier à droite. Mmh. Donc, s'il y avait un maton ou toute personne qui monte, qui va venir vers notre cellule, on les voit. Mmh. Donc, il y a un qui fait le boulot, un qui regarde, quoi, qui surveille les surveillants en venant.
Avec le petit miroir glissé dans le trou de l'œilleton, quoi.
Ouais, ouais, c'est ça. Et après, les cordes, c'est moi qui l'ai fait. Je l'ai fait depuis longtemps, quoi.
Et du coup, comme tu disais, c'était facilité par le fait qu'il y avait cette grève des matons qui faisait qu'ils venaient moins dans le couloir que d'habitude. Ils ne faisaient pas les vérifications à l'œilleton aussi régulièrement.
Non, pas juste ils venaient moins. En fait, avant, ils viennent chaque 15 heures, par exemple, à l'heure de Paris, là, chaque 15 heures, ils viennent pour faire un sondage sur le fenêtre, pour savoir s'ils sont bons, ils sont pas bons et tout ça.
Le sondage, c'est ils viennent taper avec leur matraque sur les barreaux pour vérifier qu'il n'y a pas justement une dégradation qui a été faite sur le barreau et cachée avec un peu de dents.
Ouais, où il n'y avait pas quelque chose, où il n'y avait pas un yo-yo, où ils coupent les yo-yo et ils partent. Donc ils vont vérifier les fenêtres et ils partent. Et pendant une semaine, ils ne sont pas passés. Donc, pendant une semaine, ils ne sont pas passés. Et du coup, les fenêtres, elles sont tombées, quoi. Et on est parti. Ouais, c'est ça. Et s'il y avait des questions, je peux répondre à toutes les questions. Vous pouvez...
Bah, est-ce que si elle fait, sur cette grève des matons, du coup, je ne sais pas si je suis bien sur les dates, mais c'est la grève des matons qui était suite à Condé-sur-Sarthe, non?
C'est en janvier. Début janvier.
C'était en janvier. En fait, c'était janvier 2018.
Ouais.
Tout à l'heure, on disait 2019, mais en fait, c'était janvier 2018.
Ouais.
Et du coup, il y a eu cette grève énorme des matons suite à une prise d'otage à Condé-sur-Sarthe. Non, je ne me rappelle plus exactement.
Non, ils ont. Là, je ne sais pas. Moi, j'étais en prison, je ne sais pas. Mais c'est que j'ai attendu le janvier. Le gens dit au promenade là en disant qu'il y a quelqu'un qui a agressé un maton à Calais ou quoi. Et après ils ont fait une grosse manifestation là-bas. Ils ont brûlé des pinets devant la prison et tout ça en janvier 2020. Mais je sais pas trop, en fait j'ai pas trop d'infos dessus.
Il faut vérifier, mais peut-être il y a une confusion entre Calais et Condé. Je sais pas. Bon, faudrait revenir. C'est cool. Il y a une brochure sur cette, mais qu'on va vous mettre en ligne sur le blog. Il y a une petite brochure qui est sortie avec deux textes de l'intérieur, un texte d'un collectif de prisonniers à Fleury, à la maison d'arrêt de Fleury, et un texte d'une prisonnière qui était à Rennes à ce moment-là, je crois. Et du coup, contre cette grève de matons, quoi, qui sont des textes en réaction à cette grève de matons, où il y a eu quand même un peu des blocages de promenades, enfin pas mal de choses aussi de révolte un peu collective qui sont passées à ce moment-là dans les prisons, parce que quand les matons ils font grève, ça veut dire pas de cantine, la bouffe qui est pas distribuée trois fois par jour comme tu disais. Ouais, c'était un peu la plus grosse grève de matons de ces dernières années, quoi.
Ouais.
C'était pour resituer un peu. Et du coup, il me semble que c'était suite à un truc qui s'était passé à Condé, mais voilà, j'ai pas pris la brochure avec moi, mais du coup, elle sera sur le blog pour plus de détails sur cette grève en question.
Ben, ils ont manifesté aussi à Calais, partout, dans toutes les prisons, là, pour soutenir entrer, quoi, le matin, pour bien punir les gens, quoi. Du coup, moi, je suis en prison et je savais pas trop sur ça. Tout ce que j'avais compris, ils ont grève parce qu'il y a un maton qui a été agressé par un détenu. Mais en vrai, ils sont plus violents que les détenus, les matons.
Bah oui, c'est sûr. Ouais, et quand ils font grève, c'est une violence de ouf. Voilà, ouais. Aussi. Enfin, et là, dans la liste que je faisais de tout ce qui est... Et encore pire que d'habitude en tôle, quand il y a une grève de maton, bah aussi ils bloquent les parloirs, ils empêchent les familles de venir, enfin les familles, les proches de venir au parloir, ce genre de choses, et du coup ça fout, ça nique grave le quotidien des personnes qui sont enfermées.
Bon, c'est ça, hein. Merci à tout l'auditeur, le gens qui nous écoutent, merci madame et messieurs.
Du coup, on va reprendre avec Alfish, si tu as envie de raconter un peu, voilà, le mitard, on en parlait dans une brève, et là, tu racontais que tu avais fait 22 jours de mitard. Est-ce que tu as envie de raconter un peu comment ça se passe, comment ça s'est passé pour toi quand tu étais au mitard?
Le premier semaine, ça a été trop dur. Je pense qu'ils ont fait un exprès de me ramener dans une cellule qui y a une fuite d'eau. Mmh. Ça fait très froid. Et du coup, j'ai un casier à l'intérieur. Le cellule est trop sécurisé. Il y a une petite fenêtre en haut. J'avais une bonne mémoire. Deux grandes portes. Dont était donc le manger avec une petite fenêtre, et il te propose est-ce que vous voulez en manger, si vous dites non, c'est non. J'en ai fait une grève de faim pendant deux jours, et après, j'ai aucune communication, je me suis repris à manger tout seul. Je dors pas, je criais. Après, il vient, il tape, il m'appelle avec l'interphone, je décroche. Ouais, on vient, on va te frapper. Je sais qu'à partir de 19h, ils ont pas le clé. Donc, le chef, il va garder les clés, il va partir. Et si je me sens froid, je commence à crier dans les cellules, je crie. Il vient, il tape, il met l'ergon. Ouais, on va rentrer et tout ça. Et je dis, bah, écoutez, moi aussi, j'ai une fourchette à l'intérieur. Je suis pas perte. Et du coup, avec le temps, il m'avait changé dans une autre cellule. Et là, au moment que j'étais, ça fait froid. Même je sors dans le promenade, c'est pareil qu'à l'intérieur, en fait. Et je descends, je me suis sécurisé avec trois matins qui me fait descendre au promenade pendant une heure de temps. Et après, je monte. La première semaine... En fait, ce qui est choquant dans le mitard, le toilette, le douche, l'eau est froide, c'est pas chaud. Ça fait froid et l'eau aussi est froide. Donc tu peux pas rentrer, prendre un douche avec l'eau froide. Et je fais 22 jours, je pense que je pris deux douches, deux fois.
Oui, après, en plus, là, c'était plein hiver.
Ouais.
Du coup, il faisait hyper froid.
Ouais, ça fait la première fois, je suis allé, j'ai essayé, je me sens pas bien, j'étais malade. Et là, j'ai retourné, après, je me sens pas bien et je suis retourné. En tout cas, c'est pas trop bien. Mais à l'isolement, je me sens bien. Il y a des gens qui criaient. Au début, là, au mitard, au moins que je suis venu, il y a une personne et mon co-détenu. Et après, le gens, il vient pour un jour ou deux jours parce que là-bas, le minimum de peine, c'est 22 jours. Je peux pas faire plus.
Le maximum.
Le maximum, ouais. Désolé pour mon accent. Et du coup, le maximum, c'est 22 jours. Moi, je fais 22 jours. Et mon co-détenu, il a fait 21 jours. Après, on est tous placés à l'isolement. Donc, l'isolement, c'est bien. Tu as une salle de sport. Tu peux t'inscrire dans le sport une fois par semaine. Le promenade est plus grand. Mais du coup, les quartiers, les bâtiments normaux des prisons, tu écoutes les gens parler, tu as une télé à l'intérieur, tu as tous tes habits, fringues aussi à l'intérieur. Mais juste le matin, ils sont plus violents que de la bâtiment normal. Ils ne parlent pas, ils viennent voilà. Je passais mon temps, un jour, je sais pas, vers 3h, tout. Ils ont ouvert la porte, m'a dit, mais si vous êtes libre. Je croyais pas, je dis, bah, ok, il va me ramener dans une salle, il va me taper, parce que... Après, je suis allé aux salles d'attente, j'étais toute seule, je croyais pas non plus. Et là, je vu un mec qui vient avec ses affaires. Moi, il m'a dit, prenez votre affaire, vous êtes libre. Et je dis, mais non, n'importe quoi. Et c'est pas vrai, je suis pas libre. Je dis, ben, je vais aucune affaire, je vais juste sortir comme ça. Il m'a dit, non, non, mais c'est obligatoire, vous devez prendre votre affaire. J'ai ramassé, j'ai plein de trucs, j'ai ramassé, j'y arrive même pas. Il m'a mis, je suis rentré avec dans une salle d'attente. Je dis, mais non, n'importe quoi. Là, peut-être il va me changer le cellule sans que moi je demande. Peut-être il va me frapper. J'ai appelé mon co-détenu là. Il est plus là. Je sais pas où il est. Du coup, je fais presque une heure du temps. Il y a un autre mec qui vient. Je demandais, j'ai dit pourquoi vous êtes là. Il me dit je suis libérable. Ah ouais, je lui ai dit, est-ce que vous pensez, moi aussi, je suis libérable? Il m'a dit, ben oui, si vous êtes là, vous allez sortir. Et du coup, il m'avait accompagné devant la porte. J'ai trouvé des camarades. Et je suis venu sur Paris aussi. Je fais 2 ou 3 jours, je crois pas, en fait. Et là, je me suis habitué. Ça va, tranquille. Tout va bien.
Et juste pour revenir, du coup, entre-temps, juste pour donner un peu de précision, tu as eu un procès pour la tentative d'évasion.
Oui.
Et si je ne me trompe pas, il t'avait condamné à 6 mois, dont 3 mois avec sursis.
Oui.
Pour la tentative, mais comme tu avais déjà fait ouais. plus que ta peine...
Oui, je fais 2 mois de plus, 2 mois et quelques. Entre le mitard... Ouais. Là, je fais plus que ma peine. Et du coup, je ne connais pas leur article, les jugements. Ils ont fait ce qu'ils voulaient. Ils veulent plutôt. Et je ne connais rien dans le jugement et tout ça. Je ne sais pas. Moi, je sais ce que je voulais faire. Je fais ce que je puis à faire, ce que je voulais. Sur les toits, ça pleuvait, mais je me sens libre à l'intérieur, en fait. J'ai crié. J'ai jamais été heureux comme ça, en fait. Voilà. Tout ce que je sais, c'est ça. Après, la prison, j'en ai fait avant aussi. C'est pas la première, je pense. Je souhaite pas à une personne qui rentre en prison, en fait. C'est horrible, c'est pas bien. En plus, ils sont très racistes à l'intérieur. Donc, c'est pas bien. Je sais pas, j'ai aucun mot à dire sur le prison. Mais tout ce que je sais, il y a des notions à l'intérieur. Il y a des gens qui sont partis comme ça. Mais les vrais criminels, ils sont dehors, en fait. Ils sont à l'Élysée. C'est là-bas, et c'est eux qui devaient aller en prison, en fait. Et Macron et tous ces gens-là. C'est ça, les vrais criminels, pour moi. Mais je n'ai pas d'autres mots.
Et je voulais revenir sur... Tout à l'heure, tu as dit aussi que toi, personnellement, tu avais décidé de faire cette tentative d'évasion.
Oui.
Parce que tu avais t'étais sous le coup d'une possible expulsion. Ouais. Vers le Tchad, c'est ça?
Ouais, mais c'est ça. Et après, la préfecture, elle vient me voir là-bas en disant, une fois que votre peine est terminée, vous pouvez passer à la douane et vous rentrez chez vous. Moi, c'est ça ma raison, en fait. C'est vrai, on a décidé à aider et tout ça, mais après, moi, je dis à mon co-détenu, écoute, ne le fais pas. Moi, je vais essayer. Je pense que si j'étais toute seule, je peux réussir dans ma tête, mais je sais pas. le mur et tout ça, mais je sais pas. Au bout de moment, je voulais prier que le mur ça vous vendait, mais j'ai pas cette pouvoir. C'est pas marché.
Ouais, parce qu'en plus après 4 heures, ouais, tu devais être complètement fatigué.
Au bout de moment, je me suis allongé sur le toit en haut pour respirer un peu. Je fais vite. Je me suis blessé partout. C'est pas facile en fait. Je suis pas un truc qui vient m'enlever et partir et tout ça. C'est pas facile. Mais en tout cas, je l'ai essayé. Je préfère pas retourner encore en prison. Et c'est un bon essai, quoi. Je le fais. Et c'est pas honte de le faire.
Ouais. On va avoir honte, c'est sûr.
Ouais.
Peut-être avant de continuer la discussion un peu, on va écouter de la musique, un morceau, si ça vous va.
Ouais. Ouais.
C'est parti.
Thank you.
Vous êtes toujours dans Carapatage, l'émission contre toutes les cages sur Radio Libertaire 89.4 FM. On vient d'écouter El Payande de Lucha Reyes. Et je vous rappelle l'adresse mail pour nous contacter. Promis, on essaye de répondre en moins de 2 mois. La prochaine fois, c'est carapatage@riseup.net. On reprend tout de suite avec notre invité Alfish, qui, du coup, pour rappel, tenter de s'évader de la prison de Fresnes en janvier 2018. Et Pitou, tu avais une question pour Alfish.
Bon, en fait, ouais, c'était une question par rapport, comme on disait tout à l'heure, même si des fois des gens tentent de s'évader, l'évasion, elle n'a pas abouti. Mais pour autant, c'est quand même un moment. Enfin, tu disais tout à l'heure que quand tu disais t'as pas honte, mais même t'étais content de l'avoir fait. Enfin, ça t'a apporté une espèce, quand même un moment un peu de libération, non?
Ben, moi, au moment que j'étais sur les toits, en fait, les détenus criaient, va par là, va par là. Moi-même, je criais, j'essaye de dire, s'il vous plaît, arrêtez, oh les gars, calmez-vous. J'essayais tout ce que je pouvais. Et après, ils criaient, je criais entrer, mais je me sens, il y a un bonheur qui est sorti à l'intérieur de moi. Je dis, ben, de toute façon, ils ont crié, même si je suis grillé, je me sens libre, quoi. Je me sens fier de ce que je fais. Et je vais continuer. Ils vont dire, ouais, ils font ça. Ça m'a encouragé de dire, ok, je vais aller faire. Et du coup, je me trouvais devant un mur de 6 mètres que je ne peux pas, un mirador. Voilà quoi. En tout cas, je suis essayé. Je ne vais pas être enfermé dans ma vie encore, jamais. Je ne vais pas retourner en prison, je ne vais pas faire le prison, je ne vais pas être maton, je ne vais pas être juge. Voilà, tout ça, c'est la merde pour moi. Je vais pas le faire.
Moi, je me demande aussi, là, tu parles du coup des autres détenus qui crient aux fenêtres et qui, du coup, t'ont un peu grillé aussi sur Snapchat, comme on disait plus tôt dans l'émission. Et bah, je sais qu'après, du coup, on a compris que t'étais au mitard pendant 22 jours et qu'après, t'es resté au quartier d'isolement jusqu'à ta sortie. Je me demandais si quand même t'avais pu avoir, tu disais qu'au quartier d'isolement par exemple tu pouvais entendre les gens par la fenêtre et tout, est-ce que après t'as eu un peu des retours d'autres détenus sur cette tentative, est-ce que tu vois les gens est-ce qu'il y a des gens qui ont pu t'en parler aux fenêtres ou quoi par exemple?
Ouais, mais après y a un mec qui dit il vient de Marseille et ça fait 8 ans qu'il est à l'isolement. Du coup, il dit, ah ouais, c'est vous que... Il m'a dit, pourquoi vous êtes là? Je dis, ouais, je me suis essayé d'évader. Il m'avait pris. Ah, il dit, ouais, je te vis sur les snaps et tout ça, sur les toits avec un truc blanc-noir et tout ça. Je dis, ouais, c'est moi. Il dit, mais c'est un fou. Je dis, mais c'est normal, en fait. T'as fait comment? Moi-même, je vais sortir, dis-moi. je dis, ben, je sais pas, en fait, le cellule, elle est à côté de toilette, et les fenêtres sont tombées toutes seules. Dis-moi, ça fait 8 ans que les fenêtres ne tombent pas toutes seules. Du coup, voilà. Et après ça, je me suis retourné, une fois que c'est sorti, retourné à Villepinte. Et là, à Villepinte...
T'as été recondamné pour un autre truc, ouais, et tu t'es retrouvé à la prison de Villepinte.
Ouais, à Villepinte. Et là, dans les promenades, il y a un mec qui me voit et me dit « Ouais, je te vis sur Snapchat. » Et tout ça, je me dis « C'est quoi Snapchat ?» Moi, je connais pas, en fait. Je connais Facebook, WhatsApp. Mais Snapchat, je connais pas. Ben, c'est normal, hein. Mais moi, je vais pas être connu, quoi. C'est des choses que j'aime pas être enfermé. j'aime pas faire du juge, je vais pas être jugé non plus, en fait. J'ai rien fait par rapport à d'autres criminels, en fait, qui dirigent le Tchad ou la France. Pour moi, eux, c'est les vrais criminels, quoi. C'est eux qui devaient être en prison. S'il y avait d'autres questions, moi, je réponds que aux questions. Et ça fait chaud ici à l'intérieur. C'est un peu fatigué.
Et toi, t'avais l'impression que c'était un sujet dont les gens, ils parlaient beaucoup dans la cour de promenade, par exemple. Les prisonniers, entre eux, ils parlaient souvent de s'évader ou c'est pas un sujet qui se parlait trop
avant
Ben non, là, par exemple, à Franck, le mec, il dit « Ouais, je fais une connerie, j'assume, mais je vais payer. »
Ah ouais.
Il pense pas, il y en a un peu... ouais, mais la plupart, ils vont dire « Ouais, je fais une connerie, je suis là pour payer, il faut assumer. »
T'as pas trop entendu parler, les gens, de parler d'évasion?
Non, 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 personne, personne.
Mais quand même... Enfin, du coup, je fais une petite parenthèse pour parler d'une tentative d'évasion qui a eu à Fresnes récemment et qui ressemble beaucoup à la tienne.
Ah ouais?
Ouais, c'est une prisonnière, du coup, qui est passée en creusant dans le mur de sa cellule. Alors, on n'a pas l'info de à quel étage du bâtiment elle se trouvait ni dans quel bâtiment elle était. Mais en tout cas, elle avait pour projet, selon les journaux flics, hein, de s'évader par les égouts. Alors, elle avait préparé, elle s'est retrouvée du coup à descendre de sa cellule, arrivée dans le chemin de ronde, et là, elle avait repéré une bouche d'égout pour s'évader par les égouts. Mais du coup, elle a pas réussi. On sait pas trop pourquoi. Et elle s'est retrouvée à essayer de trouver une manière de sortir de l'enceinte, un peu comme toi. Et pendant 3 heures, ça veut dire pendant 3 heures, les matons, enfin personne l'a grillé, quoi. Peut-être qu'elle aussi, elle s'est retrouvée sur Snapchat, ça, on sait pas. Mais en tout cas, ouais, pendant 3 heures, elle a essayé de trouver, visiblement, elle a essayé de trouver un moyen de sortir, elle a pas réussi. Et même dans la presse, ils disent que c'est même elle qui a fini par se présenter au maton pour dire, eh oh, je suis là, j'arrive pas à sortir.
Où est l'issue?
On en rigole, bon, c'était sûrement pas drôle sur le moment. Mais ce qui est, par contre, ce qui est drôle, et ce pourquoi on rigole, c'est plutôt que les matons avaient l'air complètement pas du tout alerte et se sont rendus compte de rien. Même leur système, apparemment, enfin, à en croire le Parisien, leur dispositif super technologique de détection des mouvements, ça n'a même pas marché. Enfin, comme quoi, des fois, bon, évidemment, c'est pas pour balayer le truc, des fois, évidemment que c'est dur de s'évader de prison et que peut-être c'est de plus en plus dur parce que ils renforcent toujours leur système au fil du temps, quoi. Mais quand même, voilà, ce genre d'exemple, mais un peu comme le tien, ça montre que il y a toujours une faille, quoi.
Exactement.
Billy,
pardon.
Oui. Tu voulais pas lire un dernier truc avant
si,
qu'on.
Si
on n'a plus de questions pour Alfiche, merci beaucoup Alfiche, c'était trop bien d'entendre ce que tu avais raconté sur cette tentative d'évasion à Fresnes. Ça met la pêche, même si voilà, ça, on aurait espéré que que tu réussisses, mais voilà, belle tentative en tout cas. Ouais. Et ça fait plaisir de t'entendre en parler.
Ouais, carrément. Merci.
Bon, merci à vous et merci à toute l'auditeur ou l'auditrice. Je ne sais pas, je ne parle pas bien en français, mais
c'est
en tout cas.
C'est exactement ça.
Ouais, merci beaucoup à vous tous.
Et du coup, pour finir. Je vais vous lire une partie d'une brochure que j'ai lue pour préparer l'émission. Et elle sera sur notre blog, du coup vous pourrez la retrouver. Elle s'appelle « Longue peine, belles échappées, 3 récits d'anciens prisonniers ». Et du coup, il y a
André qui parle dans cette brochure. Et c'est une interview. Ça s'appelle « Ça vaut le coup d'aller le chercher ». Voilà, c'est chez moi. Il y a une tapisserie pourrie. Mais bon, je l'ai laissée comme ça. J'ai mon bureau, ma télé. Ici, une photo avec l'entraîneur de Saint-Étienne. Là, une autre avec mon fils. Je vis comme dans ma cellule. Et la revue lui demande « Durant les années que tu as passées en détention, pensais-tu à l'évasion ?» Il répond « Non, non, ça a été long. Mais je me disais « Je n'ai rien avoué, je n'ai rien reconnu, je vais m'en sortir. Pour » Pourtant, je connaissais super bien Saint-Paul. C'est une ancienne prison de Lyon. Et c'est un point sensible. J'y ai passé plus de 20 ans. Si ça se passait vraiment mal, je savais comment faire. Comme Eric, qui est une autre personne à la brochure, je me préparais des sorties de secours, des plans d'évasion. Et je me coupais les veines pour faire un petit tour dehors. On passait 2-3 jours à l'hôpital Édouard Herriot. Ils me recousaient et je voyais du monde. Tu pensais que tu allais sortir par la voie normale. C'est-à-dire que, admettons qu'après 6 ans de procès où t'es enfermé en préventive, les juges te mettent 12 ans de réclusion. En comptant sur quelques remises de peine, il ne te reste donc plus que 2 ans à faire. Est-ce que ça vaut le coup de s'évader à ce moment-là? Une fois quand même, j'ai essayé de m'échapper, mais je me ne rappelle plus en quelle année. Après plus de 5 ans d'isolement, il m'arrivait de péter les plombs. Un jour, j'avais foutu un coup de poing dans le mur, je me suis fait un gros bleu. À l'infirmerie, on m'a dit « Allez, demain matin, consultation. » Ils m'ont emmené à Grange Blanche et mis le bras dans le plâtre. Le poulet me tenait à peine, il ne m'avait mis qu'une seule menotte. J'ai tiré la main de là et j'ai réussi à aller jusqu'à la sortie de l'hôpital. J'étais jeune à l'époque, mais j'ai été vite à bout de souffle. Finalement, ils m'ont chopé et j'ai pris 45 jours de mitard et 8 mois de plus. Et ça t'est arrivé de donner des coups de main à des potes qui voulaient sortir? Ah oui, à Fernando Rodriguez, un Espagnol dingo de sport. C'est un mec à qui je ne parlais pas tellement. Un jour, on est en cours de promenade, il m'a appelé « Dédé, tu peux pas te mettre dans l'angle quand tu vas au sport ?» La cour de sport de Saint-Paul était petite, on ne pouvait pas y jouer au foot à plus de 5 contre 5. Il m'a dit « Tu te mets dans l'angle du mur, il y en a un autre qui va monter sur toi et moi je vais monter tout en haut. J'attrape le mur, je me lance et je fous le camp. » J'étais costaud à l'époque, je lui ai dit « Ok ». Le premier mur était plus haut que le deuxième, qui donne dans la rue. Ça lui offrait un avantage. Je l'ai conseillé. Surtout, ne t'élance pas trop fort et mets-toi vite à plat ventre sur le côté en t'accrochant par les mains. Puis quand tu vas pour descendre, n'hésite pas. Sinon, tu vas avoir peur, tu vas garder en bas et tu vas rester pendu. Et pousse-toi du mur pour ne pas te taper la tête. Et il est parti. Il y avait le petit tunnel sous la gare de Perrache où le film Le gang des Lyonnais a été tourné. Une amie l'attendait là-dessous. Elle était un peu complice. Puis, ils et elles se sont descendus directement en Espagne. Mais cet abruti, 3 jours après, avant de passer la frontière, il m'envoie une carte postale avec écrit « Je te remercie pour signer Kiki ». Tout le monde l'appelait Kiki. La carte postale a fini dans les mains du directeur. J'ai tenté de lui expliquer que c'était normal qu'il me remercie avec tous les paquets de cigarettes que je lui avais filés et les boîtes de ricoré. Ouais, vous me prenez pour un con. Au mitard. Finalement, ils m'ont lâché parce qu'il n'y avait aucune preuve. À part la carte postale. Bon, j'en ai voulu à Kiki parce que c'est des bêtises. Il fait des belles choses et puis il fait des conneries comme ça derrière. Et à la centrale de Nîmes, que s'est-il passé? C'était une des plus belles évasions qu'il y ait jamais eu. Je suis vraiment fière. C'était en 1975. 2 ans avant, il y avait eu les émeutes des prisons. On était tous sur les toits pour essayer d'améliorer nos conditions de détention. À Saint-Paul, à Nîmes, à Melun, etc. À Nîmes, ils avaient tout cassé, même le cabinet dentaire. Et il n'a pas été réparé tout de suite. En 75, les gars allaient encore tous les jeudis à la maison d'arrêt pour se faire soigner. Il faut savoir qu'à Nîmes, la maison d'arrêt est sous l'autoroute. Un mec à Lyon avait braqué je ne sais pas quoi. Il s'appelait Mario Falbo. Il n'y a pas eu de feu ni de violence. Il n'a pas voulu parler, il n'a pas balancé ses potes et il s'est pris réclusion criminelle à perpétuité à la centrale de Nîmes. Je le connaissais pas, le gars. Ses amis restés dehors m'ont demandé de les aider à le faire évader. Mario s'arrachait des bouts de dents et comme ça, tous les jeudis, il était dans le convoi qui allait au dentiste. Ça a pris un certain temps avant qu'on se décide à aller le chercher. Il y a eu une préparation. Ce jour-là, les motards ont fait leur tournée et juste après, on s'est mis en place. Le convoi est arrivé et poc, notre fourgon a bloqué l'autoroute et l'a coincé. Comme je suis un peu foufou sur les bords, je m'étais planqué derrière le pilier. sous le pont d'une autre voie. J'avais une hache et un pieu d'escalade. Je leur ai cassé le pare-brise, pris les clés, coupé le contact pour ouvrir la porte de derrière et j'ai fait descendre les gars. J'avais une grosse tenaille pour vite couper les chaînes des pieds et des mains. Puis Mario s'est tiré, sans violence, sans rien du tout. Comme à ce moment-là, j'étais en conditionnel à Avignon, à l'aller comme au retour, j'ai pris le péage du côté de Lyon pour brouiller les pistes. Vers midi, j'étais chez ma mère. En arrivant, je lui dis « Maman, fais voir la une !» Il parle de la chaîne de télévision. Et là, c'est aux infos. je me marre. Et ma mère, vous savez ce qu'elle me dit ? Quand c'est que t'arrêteras de faire des conneries ? Vu comment elle me connaissait un peu, je lui réponds « Mais maman, c'est un mec qui n'a pas parlé. Il n'y a pas eu de mort, pas de coup de feu. Et parce qu'il ne veut pas balancer ses potes, il a pris perpète. Ça vaut le coup d'aller le chercher. » De toute façon, tout Lyon sait que j'ai participé à cette belle évasion. Et j'en suis fière. J'aurais bien voulu que Mario me paie au moins un restaurant. Parce que je ne le connaissais pas. Qu'on discute un peu, qu'on revive la situation. Mais je ne l'ai jamais revu.
Merci.
Ouais, merci. Merci, trop bien. Alfie, je t'avais envie de rajouter un dernier mot avant qu'on finisse.
Oui. Juste un dernier mot à toute cette personne qui m'a soutenu au moment que j'étais en prison. Et merci à ceux qui m'envoient des lettres au moment que j'étais en prison. Merci.
Eh ben, voilà, l'émission touche à sa fin.
Eh ben,
salut tout le monde.
Salut tout le monde, courage à toutes les personnes enfermées.
Salut.
Salut.
J'ai compris que ce qui a vraiment de la valeur ne peut pas s'acheter. Brouillé avec moi-même et avec tous les autres, je me console amèrement en m'offrant des relations factices et quelques joujoux pour les grands. Au théâtre de la cruauté, le sang qui coule n'est pas le mien, mais je jouis du spectacle, les émotions fortes de la lutte à mort, avec la sérénité de celui qui sait qu'il ne risque rien. Fort avec les faibles et lâche avec les forts, je réclame le sang des autres. Le sang des autres. Le sang des autres. Le sang des autres.
Elle pleure si longtemps retenue. Laisse. Pas tiré de larmes, arrache ton masque, faux dur, faux scarface, Superman en carton pâte. Ton cœur est rêche, ton âme est sèche, laisse enfin pleuvoir. Tes pleurs si longtemps retenus. laisse les mouiller ta joue. Tu as 40 ans mal vécu, petit homme, à quoi tu joues? Pose, petit mec, ton carnet de chèques, clé de coffre et de voiture, ton permis de chasse, ta peur, ton angoisse, ton cœur avec ses fêlures, ton âme en ruine, sans phare, sans frime.
C'est qu'un gros feignant, un gros pacha, un charlatan. Quand on l'appelle, chat répond pas, n'en fait qu'à sa tête à chaque fois.
chasse s'en fout du camp, dira-t-on. Rentre quand il veut à la maison. Chat fait du bien quand il ronronne. C'est trop chou quand chat s'abandonne. Chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même c'est parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat fait le gros dos quand il a peur du chien que chat porte pas dans son cœur. Les aboiements, chat n'aime pas trop. Les griffes, chat les sort quand il faut. Chat ramène toujours des trophées. Oiseau souris, chassé, chassé. Quand chat va pas, qu'il est fâché. Chat donne pas envie de s'effroter. Chat, oh c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh même si parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Chat pose ses pattes sur mon clavier. Pour écrire chat, c'est pas gagné. Mais pour chaparder, s'échapper, c'est chat le plus fort du quartier. Chat d'or au chaud sur le capot de mon char à nous dans mon chapeau. Quand chat s'endort sur mes genoux, chat me fait comme du bonheur partout. Oh chat, c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, non même si parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Et j'adore chat. Tout ce qu'il veut de son humain, car c'est moi qui lui appartient. C'est chat qui choisit, c'est son choix. Ça va, il me laisse habiter là, dans ce monde où les souris dansent. Chat se fout bien de tout ce qu'on pense. Qu'est-ce qui nous attache, lui et moi? Je sais pas, mais je donne ma langue au chat. C'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh même si parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Chat, oh c'est qui chat? C'est mon matou qui vit chez moi. Chat, oh même si parfois nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Nom d'un miaou, je vis chez mon chat. Et j'adore chat. Et vice versa. Pardon, versa. Versa, oui, versa.
Miaou.
Merci Monique encore une fois sur Radio Libertaire 89.4, émission bien sûr en direct, mais là d'un genre un peu spécial puisque notre invité est là-bas sous le soleil de Tahiti et bon, on va user de cette forme téléphonique que Monique maîtrise bien sûr à loisir. On est bien sur Onde de choc, le dernier
comptoir où l'on cause, l'émission qui peut faire et défaire les carrières à loisir, y compris celle de Jacques-Alain Léger, et puis de son biographe Jean Azarel, qui a publié aux éditions Séguier. Vous direz que je suis tombé. Jean, comment ça va? Oui. Allô, Monsieur Azarel, vous m'entendez ou pas? Oui, Monsieur Azarel, un petit problème là. Bon.
Allô, vous m'entendez?
Ben, ça y est, on est sauvé là, tu m'entends?
Oui, je disais que j'ai fini ma noix de coco sous le soleil de Tahiti et que je suis prêt pour l'émission.
Et les vahinées, comment elles sont actuellement?
Ah, les vahinées, la gousse est prête.
D'accord.
La gousse de vanille vahinée, évidemment.
Alors, nous devions avoir une tierce personne, c'est-à-dire l'ami Jacques Coda. Théoriquement, il lui serait arrivé des malheurs. Il m'a envoyé un mot plus ou moins vaseux, alors qu'on l'a croisé cette nuit du côté de la contre-escarpe, dans un état, un peu douteux.
Donc, tiens.
Oui, ça m'étonne pas de lui. D'ailleurs, il avait un t-shirt avec dessus marqué Caméra Gréco. C'est un livre qu'il a publié chez. Si. Il est si peu mégalomane qu'à chaque fois qu'il publie un livre, il se fait un t-shirt avec son livre dessus. Hein. Donc, c'est aux éditions Marest, Caméra Gréco.
Excellent livre, d'ailleurs.
Je sais que tu as beaucoup de peine parce que Philippe Soler s'est mort.
Un de mes meilleurs amis a effectivement beaucoup de peine, c'est vrai.
Beaucoup de peine, et c'est justement le jour, quasiment, où moi, mon ami Éric Tessier a publié un livre aux éditions Douros, Les années clandestines, donc on en reparlera un autre jour sur Radio Libertaire 89.4, sur Ondes de choc, sans aucun problème. Avant qu'on commence et qu'on descende dans, vous direz que je suis tombé, vie et mort de Jacques-Alain Léger. Je vais te lire une petite phrase que tu vas identifier tout de suite. Hein. C'est un petit salut qu'on va faire tous les deux à quelqu'un. Mène à pas feutrés mon errance marginale, ma quête aventureuse, afin de préserver encore, pour un temps, ces forces déclinantes, physiques et mentales, et la belle liberté qui sont l'unique richesse des vieux loups solitaires. Ça t'inspire ?
Merci pour mon ami Alain Gégou, qui nous a quittés il y a 10 ans et à qui je rends d'ailleurs un hommage jeudi à Nîmes. Un hommage en lecture et en images.
Faut dire qu'il était marin-pêcheur quand même, hein, c'est rare.
Marin-pêcheur, effectivement, dont le bateau a fini éventré par un cargo qui est sorti de sa route avec un bazar pour les assurances. Bon, il n'a pas touché grand-chose, l'ami Alain. Et puis le crabe a rattrapé le marin-pêcheur, voilà.
Et c'est quelqu'un qui a surtout produit un texte qui existe.
Ah ben, il en a produit plus d'un. Même.
J'appelle le texte la globalité de son texte.
Ah oui, il a vraiment une œuvre, Alain. Il a plus de 40 recueils de poésie, 2 polars. Il a participé à de multiples revues collectives, dont certaines d'ailleurs... Pour ton information, sont en train d'être réunis par l'ami Benoît Delaune, qui est en train de faire un assemblage inédit de textes de Gégou qui aujourd'hui sont introuvables. Il fait un travail d'archives, il recueille à droite à gauche tout ce qu'il peut trouver et ça devrait, si tout va bien,